qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Salut à tous et bienvenue sur Offcast, le off du podcast français, ça commence mal. Aujourd'hui, je suis avec Alexis de Tribu Indé. Salut Alexis, comment vas-tu ?
Salut Bart, très bien et toi, merci pour... Je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. On fait tous les deux partie de cette communauté incroyable de podcasteurs indépendants. Donc c'était l'occasion de se faire un petit épisode ensemble. D'autant plus qu'on avait commencé à échanger, on s'est rencontrés grâce au podcast tous les deux. Donc,
c'est vrai.
Donc c'est cool de faire ça publiquement.
Ouais, carrément, c'est cool. On échange de temps en temps depuis, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc quand on a commencé, et donc hyper cool de pouvoir faire ce petit épisode. Écoute, la tradition un peu sur Offcast, c'est de commencer un petit peu par ton parcours et de savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Et bah let's go, du coup tu l'as dit, donc je m'appelle Alexis Minkela, je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif a toujours été de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, plutôt que de faire des podcasts solo, je suis allé à la rencontre de freelance, d'indépendants qui ont plus d'expérience que moi pour décortiquer leur stratégie, leur clé de succès, et puis partager ça toutes les semaines, tous les mercredis à 8h30. Je suis moi-même du coup freelance en copywriting pour des entreprises en B2B. Donc globalement, je crée du contenu, j'améliore la conversion sur les sites, avec toujours un objectif de vente derrière. Donc ça, c'est ce que je fais et c'est ce qui me rapporte aujourd'hui le plus d'argent dans mon business model. Et puis je suis maintenant l'auteur d'un livre. Je peux le dire maintenant, après 1 an de travail, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » aux éditions Erol, qui, on en reparlera, mais qui est le prolongement de tout l'écosystème Tribu Indé, notamment du podcast. Donc voilà, globalement aujourd'hui, mon quotidien, il est fait entre ce projet Tribu Indé-là, qui m'occupe alors en ce moment un peu plus longtemps que prévu, donc quasiment 80% de mon temps, et puis la partie freelance qui m'occupe le reste du temps et qui me permet aujourd'hui de vivre et de faire des projets trop cool que j'ai décidé sans manager ni boss derrière moi.
Ouais, écoute, ouais, on va en reparler. Je suis très curieux de savoir un petit peu la transition, parce que ton parcours est hyper intéressant. Tu as commencé en tant que freelance, après tu t'es mis à créer du contenu, à créer une communauté, et puis petit à petit ça a pris de plus en plus de place dans ta vie et dans ton activité, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la grande majorité de ce que tu fais. Donc on va en reparler un petit peu sur cette transition là peut-être pour situer un peu les auditeurs. C'est à quoi ressemble un peu ton auditeur ou ton auditrice type aujourd'hui? C'est des freelanceurs, j'imagine, mais peut-être est-ce que tu as peut-être des petites infos en plus à nous partager sur ton persona?
Ça, c'est hyper intéressant comme question, parce que en fait c'est une question qui paraît simple mais qui est assez compliquée, notamment que tu fais du podcast, parce que tu le sais aussi bien que moi, on a quand même assez peu de données, si ce n'est des données de la data pure sur, ouais, sur le comportement des gens sur chaque épisode. On n'a pas vraiment de données démographiques. Et donc, en fait, c'est un travail. Si tu veux, tu m'aurais posé la question il y a 1 an. Je pense que je ne t'aurais pas donné la réponse que je vais te donner là, parce que comment est-ce que en fait, tu connais ton persona? Tu as 2 manières de faire. Soit tu bullshit un peu et tu dis oui, effectivement, c'est des freelances. Soit en fait, tu multiplies les conversations et tu crées des conversations avec des gens qui t'envoient des messages, qui rejoignent les newsletters, avec qui tu peux discuter. Tu forces en fait ces conversations-là, justement pour comprendre un peu le profil à la fois démographique mais aussi psychologique des gens qui sont auditeurs et auditrices du podcast. Donc effectivement, tu l'as dit, c'est globalement à 70%, je pense que c'est des indépendants qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience et qui sont vraiment okay. Le cœur de cible du projet Tribu Indé. Au-delà de ça, c'est quand même beaucoup de freelance qui sont dans le digital, donc soit des métiers tech, data, dev, soit des métiers plutôt graphiques, designer, illustrateur, etc., soit des métiers plus marketing. J'ai quand même, parce que je reçois quand même un certain nombre, notamment sur LinkedIn, et j'ai aussi des métiers, des indépendants plus, que j'appelle plus traditionnels, mais il n'y a pas de connotation négative, mais par exemple des fleuristes, des architectes d'intérieur, des décorateurs. Donc tu vois, des gens auxquels en fait j'aurais pas cru que ce genre de podcast-là les intéresse. Et justement, en fait, ils viennent chercher quelque chose d'un peu plus digital et une approche un peu plus marketing que ce qu'ils peuvent avoir eux. Et j'ai aussi pas mal de salariés qui sont en transition. Alors je pourrais pas donner le nom des boîtes, mais voilà, il y a certains et certaines salariés qui préparent un peu l'après. Et qui, tu vois, se donne 6 mois globalement pour prendre un peu de contenu, s'éduquer un peu sur la partie freelance avant de se lancer. Et il y a une chose intéressante, j'en discutais avec notamment des invités du podcast qui reçoivent régulièrement des messages de personnes qui ont écouté leur interview. Et c'est une chose qui est revenue, et donc je me permets d'en parler parce que ça vient pas de moi, mais ce qu'on m'a souvent dit, c'était que la communauté Tribu Indé, les auditeurs et auditrices, sont déjà un peu plus matures en termes d'âge déjà. Tu vois, c'est souvent plutôt entre 30-40 ans. Ils ont quand même, y a pas mal de personnes de cette tranche d'âge-là. Et c'est surtout des indépendants qui veulent okay. progresser. Parce qu'en fait, tu peux être indépendant et bien vivre, enfin bien gagner ta vie, avoir tes semaines qui passent et en fait, c'est cool et ça se passe très bien. Mais là, tu vois, tu as vraiment les gens qui vont écouter le podcast, surtout sur des épisodes longs comme ça, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions, qui veulent progresser, qui veulent évoluer, qui veulent tester des choses. Et ça, je te dirais, c'est un peu la clé qui relie à la fois des indépendants, des salariés, potentiellement aussi des étudiants. Des gens, tu vois, qui veulent se dire, OK, comment est-ce que je peux construire quelque chose qui me convient à 100%, dans lequel je me retrouve et dans lequel je peux évoluer et que je me projette, tu vois, à 4, 5, 6 ans.
Ok, c'est hyper intéressant, ouais, parce que ça se sent que t'as parlé beaucoup à ta communauté et que tu les connais très bien, du coup, et que t'as vu un petit peu les différents groupes, les différents personas. Et en plus, je pense que ça doit te donner beaucoup d'idées sur tes futurs invités, sur comment aussi, quel autre type de niche tu peux toucher, parce qu'effectivement, on en parlait un peu à côté, mais la communauté tech du freelancing, c'est... je vais pas dire qu'on se connaît tous, mais on voit un petit peu ce qu'on fait chacun, on se suit plus ou moins. Après, les gens vont croire que c'est un milieu très, très fermé, très consanguin, mais c'est pas du tout le cas. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu et on voit vite effectivement ceux qui se mettent un peu plus en avant que les autres, donc c'est assez facile, mais hyper intéressant. Tu vois, moi ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai mis mes podcasts sur YouTube, et sur YouTube, ça te file énormément de data. Démographique, donc c'est plus de la donnée quanti, mais ça va te dire aussi les autres chaînes, que les types de chaînes YouTube qui vont regarder, tu vois, c'est un peu plus précis sur tout ce qui est démographie et tout, et comment est-ce qu'ils m'ont trouvé aussi. Donc c'est une des choses qui m'a permis d'apprendre un petit peu aussi sur ma communauté, mais comme toi, j'ai engagé énormément la discussion, donc ça me parle vraiment bien, et je suis très surpris, donc bien joué, parce que tu as réussi à toucher des communautés hyper intéressantes. Tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises des architectes d'intérieur ou des fleuristes, donc ouais. Vraiment félicitations. et aujourd'hui, peut-être en quelques chiffres, Tribu Indé, le podcast, on parlera peut-être aussi de la communauté au sens plus large que tu as créé, parce que je suis très curieux et comme j'en fais pas partie, je la connais peu, donc j'ai hâte d'avoir quelques insights. Mais aujourd'hui, ouais, en quelques chiffres, tu saurais rapidement présenter Tribu Indé, peut-être les épisodes, l'écoute, puis si tu as envie de partager les quelques revenus que tu as pu faire avec, n'hésite pas.
Écoute, tu vois, je regardais juste avant, donc on a, à l'heure où on enregistre, on a 57 épisodes sur le podcast. Et récemment, tu vois, depuis 2-3 mois, donc à partir de octobre 2020, J'ai commencé à tester aussi d'autres formats, des formats que j'ai appelés un peu thématiques. Je n'ai pas trouvé encore de nom, je ne suis pas encore assez original là-dessus, mais des formats plus courts aussi pour contrebalancer des interviews qui sont plus longues. Donc aujourd'hui, c'est 57 épisodes, tout épisode confondu. Il y a eu une FAQ, des épisodes long format, des épisodes thématiques, des épisodes hors série. Et écoute, tu vois, je regarde la preuve, on en a juste en off, juste avant. Je regarde très très peu le nombre d'écoutes des épisodes. Mais du coup, pour notre discussion, j'ai regardé juste avant. Et figure-toi que je ne savais pas, mais on a dépassé les 200 000 écoutes. Donc là, tu vois, on doit être à 200, on était à 215 à peu près. 215 000 écoutes sur quasiment 2 ans, un petit peu moins, sur 18 mois. Donc c'est plutôt cool. Et globalement, le podcast fait entre 9 et 14 000 écoutes par mois à peu près. C'est assez variable. Et puis là, je suis de moins en moins régulier, là où je l'étais vraiment beaucoup au début. Là, tu vois, avec notamment ce projet de bouquin, je fonctionne plus en batch. Et donc, j'ai plus la régularité. En tout cas, je m'accorde des pauses un peu plus longues que ce que je faisais au début où, tu vois, la première année, globalement, j'ai quasiment pas loupé une semaine. Là où en 2020, c'était un peu plus saccadé, donc ça explique ça. Et puis, en termes de revenus, alors c'est compliqué de te donner des revenus parce qu'il y a quelques clauses un peu de partenariat. Oui, mais globalement, dans le business model global, sur 2 ans, par rapport à ce que je gagne en freelance, ça représente peut-être 15% de mes revenus totaux. 15-20% grand max.
Ouais.
Donc ça reste encore assez faible.
C'est pas mal, hein, déjà. C'est... Franchement.
C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et puis on reparlera. Mais du coup, les partenariats, je les ai d'abord testés vraiment sur le podcast. Et puis là, aujourd'hui, j'ai quelque chose d'un peu plus global sur Tribu Indé. Donc ça ouais. Si tu veux, ça a vocation à augmenter avec le temps. Mais vu que tu vois, j'avais pas ce besoin imminent de vouloir monétiser quelque chose rapidement, puisque en fait la partie freelance me permet de vivre largement et très très bien vu mon niveau de vie. J'avais pas le besoin imminent de monétiser, ouais, à tout prix et de trouver des sponsors dans tous les sens. Donc c'est aussi une autre stratégie assez intéressante là-dessus sur le business model. Ouais,
ouais, bah, je suis assez aligné avec toi. De toute façon, avant d'avoir, effectivement, comme tu le mentionnais, un petit peu avant d'avoir 10 000 écoutes par mois, déjà, il y a peu de sponsors qui vont être intéressés par ce que tu fais. Ouais. Donc déjà, il faut les atteindre. Donc c'est déjà du boulot de construire son audience. Et après, ça rajoute du travail, effectivement, de pouvoir commencer à la monétiser, travailler sur des sponsorings, et ça prend du temps tout ça, et en même temps je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, c'est beaucoup plus pertinent, je trouve, de proposer un produit, enfin de proposer un média en tout cas qui est entièrement libre, indépendant, et toi, ça te parle, j'imagine, ce mot-là, mais qui est libre, indépendant, et de le faire un petit peu déjà pour soi avant de commencer à penser à le monétiser. Parce que moi, je sais pas pour toi, mais moi, je vois beaucoup d'apprentis podcasteurs qui me contactent via LinkedIn ou qui ont eu mon email, qui me disent oui, bah j'ai envie de monétiser tout de suite et tout, et t'as combien d'épisodes? Ah, t'en as pas sorti encore? Ah, ok, bon, bah il va falloir faire les choses dans le bon ordre, et faut être honnête, quoi, sur le podcast, c'est une petite cerise sur le gâteau si tu arrives à monétiser à la fin, et je pense que ça ne doit pas du tout être la priorité quand tu te lances, ça c'est clair, on est parfaitement aligné là-dessus, quoi. Et tu vois, tu peux raconter un petit peu, vas-y.
Non, mais je te dis juste là-dessus, c'est que en fait c'est intéressant de voir que là tu dois être, je sais pas, peut-être à la troisième vague de podcast. Il y a quand même pas mal de podcasts qui sont lancés il y a quelques années maintenant, etc. Et donc, on commence à voir naître des business models, on voit que les marques, les entreprises commencent à s'intéresser à ce type de contenu-là. Et donc, bah forcément, ça attire aussi des créateurs qui se disent « Ah mais tiens, ça c'est peut-être un bon moyen de gagner un peu rapidement d'argent en faisant un podcast. » Et si tu veux, c'est pas les bonnes manières, parce qu'il y a plein de raisons, de mauvaises raisons là-dedans. Déjà, le fait qu'effectivement, ça prend du temps. Tu parles des 10 000 écoutes qui sont un peu les 10 000 écoutes symboliques. Tu peux monétiser avant, mais en fait, le temps que tu vas passer à trouver des sponsors, à négocier, à créer des propositions commerciales, à créer le partenariat, à diffuser ça, etc., par rapport au retour sur investissement que tu vas avoir, si tu veux, c'est pour ça qu'on parle souvent des 10 000 écoutes, parce qu'en dessous, t'as pas une économie d'échelle qui est si importante que ça, et tu vas pas, si c'est pour gagner quelques petites centaines d'euros sur 4 mois, je pense que c'est, tu perds quelque chose. Et donc, en fait, monter déjà un podcast à 10 000 écoutes par mois de manière régulière, en fait, déjà rien que ça, ça te prend un temps monstrueux. Et ouais, ton focus, quand tu lances un projet comme celui-ci, c'est pas vraiment de monétiser dès le départ, en fait. C'est presque, c'est pas du collatéral, mais on n'est pas loin, en fait. Il faut réfléchir sur, ok, en fait, tu fais ce podcast-là, pourquoi est-ce que tu le fais, dans quelle stratégie ça s'inscrit, est-ce qu'il y a une logique professionnelle derrière, est-ce que, tu vois, de pas juste, tu sors un truc parce que, en fait, c'est la tendance et que tout le monde sort des podcasts, parce que ça va faire comme les blogs, lancer un blog aujourd'hui en pensant que tu vas pouvoir le monétiser à mettre de la pub, et c'est pareil pour n'importe quelle forme de contenu. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi tu le fais, et je pense que la raison de pour gagner ma vie avec ce contenu là c'est une raison qui ne te fera pas durer aussi longtemps, et surtout dans les moments de creux où c'est parfois pas difficile, où tu dis c'est quand même dur, toutes les semaines il faut sortir, etc. Bah en fait, si tu penses qu'à l'argent tu vas te décourager et tu vas sortir 3-4 épisodes et tu vas lâcher. En fait, t'as beaucoup de podcasts qui passent même pas les 6 mois, tu vois. C'est un bon test, voir combien il y a d'épisodes sur chacun des podcasts.
Ouais, même moins,
je dirais. Sur iTunes, il y a une montagne de podcasts qui... C'est ça,
ouais.
Hein.
Bah écoute, ouais, je suis parfaitement aligné avec tout ce que tu me dis, et j'ai un peu la même vision, et c'est un peu la paroisse que j'essaye de prêcher, on va dire, à la nouvelle vague un peu de podcasteurs qui suivent un petit peu cette tendance-là. Et des fois on me dit que je suis pessimiste, et on me dit que je suis décourageant, mais je dis la vérité. Moi, tu vois, j'ai pas touché le moindre euro avant le 7e ou le 8e mois. Et au début c'était quasiment rien, tu vois. Donc ça doit vraiment pas être la motivation première, quoi. Ça doit vraiment être la passion, le plaisir, l'alignement professionnel que tu as, que tu trouves, et ça c'est clair. Et t'en es une belle preuve, en tout cas. Je suis curieux de savoir un petit peu la chronologie, parce que ça a beaucoup beaucoup évolué. Comme je le disais rapidement tout à l'heure, t'es passé au début d'un modèle où tu faisais que du freelancing. J'ai cru comprendre que toi, tu cherchais justement un podcast qui parle de freelancing, de comment être un meilleur freelance, de comment progresser, comment éviter les erreurs aussi du freelancing, comment passer du salariat au freelancing, un peu toutes ces problématiques-là, et que tu trouvais pas spécialement de podcast, et que c'est comme ça que tu t'es lancé. Tu voulais le dire avec tes mots, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et aujourd'hui, c'est une vraie communauté. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire romancée, comme tu sais si bien le faire, de l'étincelle, en passant par le premier épisode et jusqu'à où aujourd'hui un petit peu ça en est, et peut-être comment le podcast est inclus dans une stratégie un petit peu plus globale de création de contenu et de création de communauté.
Yes, carrément. Écoute, tu l'as déjà très bien résumé.
J'aurai des questions intermédiaires, t'inquiète.
Tu l'as très bien résumé. Alors, je vais romancer, mais tout ce que je vais te dire est complètement véridique. En fait, il faut remonter à... En gros, moi, je commence à me lancer en freelance alors que je suis encore étudiant. Après un stage dans une startup tech qui s'appelle Toucan Toco, en fait, ils me proposent de continuer de bosser en freelance pour eux. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis, bah, en fait, go, quoi. Je crée mon statut. Donc, je suis encore étudiant. Je crée ce statut pour continuer, en fait, quelques mois avec cette boîte-là. Et ce qui se passe, c'est que avant la fin de mes études, parce que j'avais déjà écrit un peu sur Internet, notamment sur une plateforme qui s'appelle Medium en 2016. Donc, tu vois, ça fait presque 4 ans que je commence à écrire petit à petit, enfin, que je commence à créer du contenu, que j'ai créé du contenu sur Internet. Il se trouve que fin 2017, une plateforme de freelance me contacte pour venir bosser chez eux sur un emploi CDI. En gros, ils sont en restructuration et l'idée, c'est de les accompagner sur la partie contenu. Ce que j'accepte, et donc en gros, tu vois, je passe toute l'année 2018 à bosser pour cette boîte-là, mais je garde quand même du freelance le soir et le week-end parce que par opportunité. En fait, tu vois, on me contacte, on me propose de faire des petites missions. Donc, c'est des petites missions puisque, tu vois, je peux pas bosser 15 jours sur une mission. Donc, tu vois, c'est le soir, le week-end. Et donc, j'ai quelques clients en filigrane, tu vois, à côté de mon job de salarié. Et il se trouve que je quitte cette boîte-là en fin 2018 pour me lancer, pour le coup, à temps plein, vraiment en freelance. Donc j'avais un peu d'expérience, mais j'en avais pas vraiment à temps plein. Et je me rends compte que, tu vois, passer à temps plein et gagner ta vie et en fait en faire ta source principale de revenus, c'est tout de suite un autre jeu, quoi. C'est un autre niveau, c'est une autre ligue. Et je comprends qu'il me manque quand même des billes et que j'ai des réflexes que j'avais pas forcément parce que j'avais pas vraiment de pression, tu vois. Si je signais pas de clients pendant mon CDI, en fait c'est pas grave, j'avais toujours un salaire qui tombait. Là, je comprends que c'est beaucoup plus compliqué. Et comme tu le dis, effectivement, il y a un trou dans la raquette en termes de contenu. Et j'étais bien placé pour le savoir parce que pendant un an, j'avais étudié en fait tout l'écosystème freelance et je voyais ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de moins bien, ce qui manquait, etc. Il se trouve que pour des raisons X ou Y que je ne vais pas développer ici, ce projet de podcast-là, en fait, je l'avais déjà dans cette première expérience en CDI. Donc, j'avais déjà, tu vois, j'avais déjà repéré un angle qui pouvait être intéressant en termes de podcast. Et quand je me suis lancé à temps plein, je me suis dit, mais attends, retrouve cette idée-là. Moi, déjà, j'écoutais beaucoup de podcasts, donc je comprenais déjà pas mal les codes du podcast, ce qui fonctionnait, ce qui, moi, en tout cas, me plaisait. Et puis, surtout, tu vois, quand j'écoutais des podcasteurs et des podcasteuses, je me disais, mais elles sont en train, enfin, ils sont en train de kiffer, quoi. Ils sont en train de prendre un plaisir incroyable à aller interviewer des gens et à discuter pendant une heure et demie avec eux. Et je me suis dit, à un moment, mais attends, mais pourquoi pas moi ? Genre, pourquoi moi, j'ai pas le droit de faire ça aussi ? Je me dis que ça peut être cool. et c'était la bonne occasion et la bonne excuse pour aller interroger des freelances qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui sont, tu vois, indé depuis 2, 3, 10 ans, 5 ans. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu mes premiers invités. Je voulais aller chercher des gens avec des problématiques bien spécifiques. Et ce qui se passait, c'est que c'était, tu vois, il y avait une démarche un peu égoïste. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais te faire l'histoire de j'ai fait ça pour offrir au monde et à tous les freelances du contenu. La réalité, c'est que le démarrage, c'était un truc qui était purement égoïste. Tu vois. Je voulais juste poser mes... c'est ce qui se passait. Tu vois, je posais mes questions. Typiquement, je posais des questions sur OK, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une mission, c'est quoi les questions que tu poses, comment tu prends du feedback et tout. Hop, la semaine d'après, bah, il se trouvait que j'avais des missions qui se terminaient et donc je posais les questions, je faisais mes devoirs d'une semaine à l'autre grâce ouais. aux échanges que je pouvais avoir sur le podcast. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et tu vois, c'est vraiment si tu veux, je suis arrivé entre. C'est le mix parfait entre. Il y a un truc qui me fait kiffer que j'ai envie de faire parce que je vois les autres le faire et moi je me dis que. Bah, j'ai bien envie de me tester sur ce format-là pour améliorer la manière dont je peux communiquer, dont je peux partager des idées, rencontrer des nouvelles personnes. Je vois qu'il y a une opportunité marché parce qu'en fait, il y a un trou dans la raquette. Il y a beaucoup, beaucoup de podcasts business, des podcasts entrepreneurs, entrepreneuriat, etc. Mais il n'y a pas de podcast d'indépendants, des mecs et des nanas qui sont seuls dans leur business et qui sont juste freelance en fait. Et puis, ouais. Et puis je me dis... let's go quoi, juste te pose pas trop de questions et lance ce projet là. Et en fait je pense qu'il est arrivé aussi au bon moment, il y a aussi un facteur chance qui fait partie du projet, qui fait que tu vois en fait le podcast prend assez vite, en tout cas il y a un premier intérêt, tu vois, je me dis j'ai pas vraiment de longue traversée du désert où tu sais tu publies et en fait tu sens qu'il y a pas de traction, qu'il y a un truc qui va pas, j'ai eu pas mal dès le démarrage de messages, d'encouragement, etc. Et ce qui fait que bah, tu vois en fait pendant globalement toute l'année 2019 je me dis ok, le seul focus sur Tribu 1D c'est de sortir un podcast quoi qu'il arrive. Donc il n'y avait pas d'Instagram, il y avait très peu LinkedIn, il n'y avait pas encore de newsletter, en tout cas pas au début. Enfin tu vois, c'était vraiment j'étais pas présent partout, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien du tout, mais c'était juste il fallait que je publie un épisode parce que je voulais créer cette régularité là et puis moi je voulais me tester. Et à la base ça aurait dû être un Tribu 1D et ce podcast-là, ça aurait dû être une capsule de 10 épisodes. Je m'étais dit, je fais 10 épisodes, ça fait un beau projet. Au bout de 10 épisodes, bah, je clôture. Moi, j'aurais vu 10 freelances, j'aurais posé toutes mes questions et puis moi, j'avance. Sauf que je me suis fait un peu rattraper et que tu vois, on est presque 2 ans plus tard et on a rajouté 47 épisodes à tout ça. Mais du coup, voilà comment, en gros, Tribu 1D s'est lancé. Et en fait, assez vite, tu vois, au bout de 7-8 mois, je commence effectivement à avoir des propositions pour le monétiser. Donc c'est là où je commence à signer mes premiers partenariats et en fait dans la foulée je me fais contacter par une maison d'édition qui s'appelle Erol, qui en fait cherchait depuis déjà un moment une personne pour écrire sur le sujet des freelances. Donc tu vois, tu sentais aussi qu'il y avait un sujet, c'est-à-dire que typiquement ouais. une maison d'édition qui me dit ça fait un moment qu'on cherche quelqu'un, on n'a pas trouvé, on est tombé sur ton podcast, tu nous as été recommandé et certains parlent de toi en interne. Si tu veux, tu sens qu'il y avait un bon timing aussi au moment où j'ai lancé ça. Ce qui fait que bah, tu vois, 2020 effectivement le podcast a continué, j'ai mis en place des processus, j'ai commencé à externaliser certaines parties du podcast et puis j'ai rajouté un nouveau projet qui était le livre. Généralement c'est ce que je fais, tu vois, chaque année je me donne une intention avec un gros projet. Tu vois, 2018 c'était je quitte mon job, 2019 je crée un podcast, 2020 j'écris un livre, 2021 on verra de quoi sera fait 2021, mais j'aime bien avoir un gros projet, une grosse intention. Et donc c'est comme ça que tu vois, petit à petit j'ai rajouté un peu des briques à l'écosystème Tribu 1D qui effectivement a commencé par un podcast. C'est d'ailleurs comme ça que je me présente aujourd'hui, tu vois, je présente pas tout l'univers, mais tu vois, petit à petit je rajoute des briques à Tribu 1D.
Ok, et tu peux nous dire un petit peu rapidement quelles sont les autres briques du coup qu'il y a autour du podcast. Alors j'ai vraiment l'impression que le podcast c'est un peu comment on pourrait dire, le vaisseau amiral dans Star Wars, tu vois. Et qu'après, autour, c'est plusieurs petites briques. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que t'as, comment est-ce que tu l'as complété, ce podcast-là? Et j'ai l'impression qu'il y a une... Tu vois, il y a beaucoup de podcasteurs qui disent qu'ils créent une communauté, alors qu'en fait, je suis très à cheval sur le mot communauté et audience. Parce que, tu vois, c'est souvent l'échange entre l'audience et le podcasteur ou la podcasteuse, mais que les auditeurs ne vont pas trop échanger entre eux. Toi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc. Alors, c'est déjà dans le nom, tu vois, il y a le côté un peu tribu. Mais qu'est-ce que tu as... Ouais, tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu as mis en place et comment est-ce que tu t'orientes petit à petit vers l'aspect communautaire?
Et je pense que tu as bien raison d'être à cheval là-dessus. Et je pense que il y a plein de choses encore que je peux faire sur le côté communauté. Maintenant qu'il y a une audience...
C'est dur, c'est tellement dur, franchement.
C'est clair. C'est clair. Mais effectivement, moi, tu vois, il y avait une lecture qui m'avait marqué sur un concept qui s'appelle le capital social, qui est un concept où, en fait, en gros, c'est comment est-ce que tu te crées un actif immatériel sur Internet basé sur une communauté, une audience. Et donc, en fait, c'est quoi ? C'est juste une formule qui te dit, bah, ton capital social, c'est l'audience, la communauté que tu as créée, que tu multiplies par le nombre de ressources que moi, j'appelle intemporelles, bref, des sortes de grosses briques. Que tu viens rajouter à ton écosystème. Et donc effectivement, imagine que la communauté Tribu 1D, c'est un gros cercle. Effectivement, le podcast prend quasiment 80% de la communauté parce que ça a été le premier projet, le premier contenu, et c'est encore une grosse pierre angulaire. C'est comme ça d'ailleurs que la plupart des gens me connaissent et connaissent Tribu 1D et entendent parler de Tribu 1D, c'est par le podcast. Ensuite, j'ai rajouté des briques. Tu vois, j'ai rajouté par exemple la newsletter qui en fait initialement était juste en fait un mail que j'envoyais pour dire coucou, l'épisode est sorti, et qui a beaucoup évolué et qui est maintenant très tourné sur moi, mon aventure en tant que freelance mais aussi en tant que créateur, parce qu'en fait tu vois, je me rends compte aujourd'hui, chose que j'avais pas trop saisie, ou en tout cas que je voulais pas trop me raconter à l'époque, mais en fait je suis presque sur deux business, c'est-à-dire que j'ai un business de freelance en tant qu'indépendant avec mes clients, etc., avec la marque Alexis Minkela, et puis j'ai un autre business qui s'appelle Tribu 1D. Donc, tu vois, cette double casquette-là, elle intéresse les gens. En les questionnant, c'est quelque chose dont ils voulaient savoir un petit peu ce qui se passait derrière. Donc, tu vois, cette newsletter-là, elle est beaucoup plus personnelle que le podcast. Tu vois, là où le podcast, où je laisse parler mes invités, la newsletter, j'en profite pour partager ce qui se passe dans mon quotidien. J'ai beaucoup partagé en 2020 toute l'aventure du livre, etc. Et puis, je partage aussi des concepts de freelance, soit que j'ai lu, soit que j'ai testé sur mon activité à moi. Donc, tu vois, les deux, en fait, s'auto-alimentent assez bien entre mon activité de freelance et puis Tribu 1D. Ensuite, on a rajouté Instagram récemment, tu vois, depuis 3-4 mois. Donc, tu vois, un an et demi après, alors que tout le monde disait « Mais pourquoi t'es pas sur Instagram ?» etc. J'ai attendu un an et demi avant de me dire « Est-ce que Instagram, c'est un bon move à faire ?» Et je vais suffisamment être pertinent pour créer quelque chose. Moi, c'est toujours ce que je me dis, c'est que j'ai pas envie de multiplier les médias, les formats, les contenus. Si je le fais, c'est que je vois une opportunité, mais je vois surtout quelque chose, une opportunité de faire des choses différemment et de raconter des choses différentes. Si tu prends toutes les briques de Tribu 1D, en fait, elles peuvent assez bien vivre entre guillemets de manière indépendante. C'est-à-dire que tu peux écouter le podcast et ne pas avoir accès au reste et c'est ok, tu vois. Mais tu peux aussi, je sais qu'il y en a qui ne lisent que la newsletter, parce que dans la newsletter, je partage pas mal de pépites, ma veille pour les freelances, etc. Et donc, en fait, les gens sont intéressés plutôt là-dessus, de voir un peu mon côté créateur. D'autres vont suivre que sur Instagram parce qu'il n'y a que du contenu qui est spécifique à la plateforme, etc. Donc, tu vois, j'essaye à chaque fois de me dire comment est-ce que... Alors, elles sont toutes liées, toutes ces plateformes-là, mais comment est-ce qu'elles peuvent vivre aussi de manière indépendante? Et puis, il y a ce livre-là que j'ai écrit en 2020 qui vient se rajouter et qui potentiellement prendra pas vraiment la place, mais en tout cas va devenir aussi un deuxième vaisseau amiral, le deuxième vaisseau amiral de Tribu 1D, parce que là, l'objectif, c'était aussi de m'ouvrir à une audience beaucoup plus large qui n'a pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts. Tu vois, tout le monde n'écoute pas de podcasts, tous les freelances n'écoutent pas de podcasts. Donc là, c'était l'idée de, pareil, d'avoir quelque chose de différent. Tu vois, c'est pas juste un copier-coller du podcast. Ouais. C'est pas, tu sais, on voit pas mal de podcasteurs qui en fait écrivent des livres. C'est simplement un résumé de tous les épisodes. Je vais pas les citer. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de complètement différent. Pareil, qui peut vivre tout seul. C'est-à-dire que tu peux en gros lire le bouquin. Et t'as normalement, tu as tout le framework et le blueprint pour te lancer. Et t'as pas forcément, enfin, tu vois, t'es pas obligé d'y aller écouter le podcast si tu veux la bonne info que j'ai glissée, mais à moitié dans le livre, etc. etc.
Ouais,
donc, en gros, c'est podcast, newsletter, le bouquin et puis Instagram qui sont là où je passe le plus de temps. Là où tu vois, je te cite pas LinkedIn volontairement parce que en fait, LinkedIn pour moi, je le considère pas vraiment comme un écosystème de contenu en tant que tel. C'est plutôt une plateforme de promotion plus que de créer un contenu. Tu vois, les échanges sont plus personnels en one to one. Il y a pas vraiment de, tu vois, il y a pas vraiment d'aspect communautaire, je trouve, sur LinkedIn en tout cas.
Ouais, ok, je vois. Hyper intéressant. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que là aujourd'hui, c'est toute cette partie de création de communauté et de création de contenu, c'est 80% de ton temps, c'est ça? À peu près.
Ouais. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, avec le livre, tu vois, le livre globalement sur 2020, c'est un projet qui m'a pris un peu plus de 300 heures, 350 heures à peu près. Donc, donc tu vois que c'est assez conséquent. Ouais, c'est assez conséquent. Okay. Et je te mets pas la partie création du podcast, la newsletter, etc. dedans. Donc, ouais, aujourd'hui, ça me prend, en tout cas là, tu vois, sur les derniers mois, ça m'a pris, ouais, 70% de mon temps. Et les 30%, c'est plutôt des missions clients. Ouais. Et c'est ce qui, à mon avis, c'est vers ça que je vais tendre. Moi, j'ai toujours envie de rester dans la partie freelance. Parce qu'en fait, je trouve que, enfin, moi, je m'éclate vraiment à être un freelance. Souvent, certains te disent, bah, c'est juste une transition avant de passer vraiment dans la case entrepreneuriat, monter des équipes, etc. Bon, en fait, ça me fait vraiment, moi, j'adore bosser avec mes clients, j'adore négocier, j'adore arriver sur des nouvelles missions. Donc, j'ai quand même envie de garder ça. Mais bien sûr, là, j'ai envie d'accélérer un peu plus sur Tribu Indé. Donc forcément ça me prendra un peu moins, la partie freelance me prendra un peu moins de place, mais si tu veux, c'est toujours mon terrain d'expérimentation aussi. Si je veux continuer d'alimenter la machine Tribu Indé et d'avoir des choses qui sont différentes de tous les autres créateurs et créatrices de contenu dans cet écosystème freelance, bah, je pense que c'est intéressant d'avoir encore un pied dans le business. Et si tu veux, enfin, tu vois, moi au quotidien, je discute avec des clients, quoi. Je suis pas juste le gars qui fait Tribu Indé et qui crée du contenu pour les indépendants, quoi.
Ok, hyper intéressant. Et j'avais deux trois petites questions peut-être sur le livre. Donc tu as dit que c'était effectivement qu'il y avait eu un bon momentum, tu vois, avec Erol, la maison d'édition. Qu'en plus, Erol, ils ont une vraie stratégie d'aller voir des créateurs de contenu qui ont leur propre communauté, leur propre audience, et de travailler avec eux et de pas forcément chercher à faire le futur Harry Potter ou le futur Fifty Shades, mais plutôt faire plein de alors, j'aime pas le mot petit succès, mais tu vois, en tout cas d'être capable de sortir des livres qui vont marquer une niche, tu vois, et d'être une référence dans un domaine très spécifique. Donc je trouve ça intéressant. Toi, c'était un truc que tu voulais faire, le livre, enfin, te connaissant, je pense que oui, tu vois, c'était un truc qui devait te tenter et qui devait te trotter dans la tête. Est-ce que là, ça a accéléré le processus? Tu l'as dit, c'était énormément de travail. Une fois qu'ils sont venus te parler, c'est quoi les grandes étapes en fait de création d'un livre, une fois que tu as commencé un peu à discuter avec l'éditeur?
Bah écoute, figure-toi qu'ils sont venus une première fois et je leur ai dit que c'était pas le moment, quoi. Parce que encore une fois, j'étais dans ce truc de me dire, ton seul objectif en ce moment là, c'est de publier un épisode toutes les semaines et ça te prend déjà suffisamment de temps. Il y a toutes tes missions freelance. C'est pas le moment d'écrire un bouquin, quoi. Donc ils sont venus une première fois et j'aurais dit, voilà, c'est pas le moment, on en discute plus tard. Et ils sont revenus quelques mois après en me disant, réfléchis quand même à l'opportunité, on a vraiment envie d'écrire ce bouquin et tout. Et là je me dis, bah attends, t'as une maison d'édition comme Erol qui vient te voir deux fois, est-ce que là il n'y a pas un moment où tu peux passer à côté d'une opportunité qui se représentera peut-être pas? Parce que en fait, c'est aussi cyclique, eux c'était dans leur projet aussi d'écrire un livre sur les freelances.
Ils peuvent trouver quelqu'un entre temps et puis voilà, quoi, c'est fini.
Et donc en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que du coup, on commence à discuter. Et effectivement, moi, depuis toujours, en vrai, si tu veux écrire un livre, c'est un truc un peu cool. Au-delà du côté notoriété, etc., c'est juste un challenge qui est cool. Moi, je me souviens, et c'est pas du storytelling, j'écrivais vraiment alors c'était pas des livres, hein, c'était des nouvelles, des histoires, on appelle ça comme on veut. J'étais en CM1, CM2. Alors j'écrivais pas tout seul, j'écrivais avec un gars qui s'appelait Marc. qui s'appelle toujours Marc d'ailleurs. Et donc on écrivait à quatre mains, mais des histoires sans prétention. Mais du coup, je me suis toujours dit, moi qui ai toujours aimé lire, tu vois, par exemple, mes parents nous ont jamais restreints avec mon frère sur le fait de lire. Donc on avait presque budget illimité en ce qui concernait les bouquins. Tu vois, on avait le droit, dès qu'on avait envie d'un livre, en fait, c'est un truc hyper important chez nous. Et donc, tu vois, j'ai toujours eu ce goût de la lecture, de l'écriture, etc. Donc je m'étais toujours dit, bah, ça pourrait être cool un jour d'écrire un livre, pas forcément du business, même de la fiction. En revanche, si je suis honnête, jamais, enfin, c'était pas du tout dans les plans d'écrire un livre maintenant. Là, c'était vraiment l'opportunité. Je me suis dit, let's go, c'est le moment, ça peut être cool. C'est aussi un gros challenge. C'est un challenge perso, tu vois, d'écrire un bouquin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire un article ou de faire un podcast, en tout cas de mon point de vue. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, mais ouais, c'était pas vraiment dans les plans. Moi je fonctionne souvent en plan 90 jours puis en plan annuel, donc c'était pas du tout dans les plans, c'était pas du tout ce que j'ai embarqué. Mais encore une fois, tu vois, en gros tu deviens pas riche avec un livre, et en fait tout le temps que j'ai passé sur le livre, ça aurait pu être du temps que j'aurais passé avec mes clients du coup pour gagner plus d'argent, que j'aurais pu développer d'une autre manière et plus rapidement, tribuander, en tout cas trouver un business model plus rapidement. Sauf qu'encore une fois, tu vois, je suis pas pressé, et je fais tu vois, je regarde assez peu ce qui se fait aussi ailleurs dans l'écosystème, du coup tu vois, j'ai pas trop de pression de me dire ok, je suis en retard, je fais pas les choses correctement dans le bon ordre, etc. Et vu que en fait bah, la partie freelance continue de me nourrir correctement, bah, si tu veux, tu vois, j'ai, encore une fois, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, j'ai pas beaucoup de charges, c'est le moment de, je peux passer, en gros je peux passer 300 400 heures sur un projet qui va pas m'en rapporter à court terme, mais qui par contre a un effet que je peux même pas anticiper aujourd'hui, en 2-3 ans, en fait dans 3 ans, tu vois, je suis incapable de dire les retombées potentiellement économiques, de notoriété, de crédibilité que va pouvoir avoir ce livre sur Tribu Indé, sur mon activité de freelance, etc. Mais effectivement, tu vois, je me suis dit, bah, let's go sur 2020, embarque ce gros projet-là, faisant un projet en fait, de toute l'année et faisant une direction. Mais c'était pas vraiment dans les plans, en tout cas au démarrage, quoi. Ça l'est venu après, bien sûr, mais ça l'était pas dans le plan de développement de Tribu Indé initialement, ouais.
Ok. Et t'avais tout de suite un petit peu le plan du livre et ce que t'avais envie d'apporter dedans ?
Écoute, en fait, c'est assez compliqué. Si tu veux, j'ai surestimé, enfin, j'ai sous-estimé plutôt le temps que j'allais passer sur la préparation et la recherche sur le bouquin. Parce qu'en fait, toi, tu te dis, ok, moi, je suis freelance depuis globalement 2 ans à temps plein, plus 2 ans. Donc, en fait, ça fait 4 ans globalement que je suis dans cet écosystème-là. J'ai bossé pour une plateforme de freelance, donc je connais extrêmement bien l'écosystème. J'ai discuté avec des centaines de freelances depuis 4 ans. Tu te dis, bon, bah, en vrai, je sais de quoi ça va parler, je sais comment je vais en parler, je connais parfaitement les pièges dans lesquels tout le monde tombe et dans lesquels je suis tombé. Donc en fait, ce livre-là, il va être assez rapide à écrire. Il se trouve que finalement, quand tu écris un livre, c'est hyper compliqué de trouver une thèse déjà qui soit cohérente et qui se tienne, tu vois, de la page 1 à la page 280. Le livre fait 280 pages. C'est très compliqué de te dire, ok, c'est quoi l'idée centrale que tu as envie d'amener de la page 1 à la fin du livre ? Et surtout, comment est-ce que tu fais pour que cette thèse-là, elle se tienne, et que tu puisses avoir, tu vois, des rebondissements, que tu puisses avoir des changements de rythme. Bref, que ça soit pas un livre un peu boring, tu vois, de A à Z, truc un peu scolaire, etc. Ouais, exactement, tu vois, c'était pas l'idée. J'aurais pu le faire, mais c'était pas vraiment l'ambition que j'avais avec ce bouquin-là. Donc en fait, j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps à tu vois, réfléchir, à me dire, ok, quelle est l'angle que j'ai envie de prendre avec ce bouquin-là ? Comment est-ce que j'ai envie d'attaquer les sujets ? Comment est-ce que je fais pour aussi ne pas aborder volontairement certains sujets qui me paraissent pas les plus importants, notamment quand tu es à 0-2 ans d'activité ? Et ça, en fait, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, même, tu vois, d'écrire le plan d'un livre. Tu vois, quand tu fais, par exemple, une interview en podcast, bon bah, soit tu l'écris, tu vois, t'écris un peu la trame, les questions, soit tu peux facilement avoir ça dans ta tête où tu te dis, voilà, avec cet invité-là, on va partir d'un point A et puis on va aller au point B et on va passer par tel et tel sujet. Et en fait, à la fin, on aura globalement la thèse qui sera X, Y, Z. Pareil sur un article, tu peux avoir en tête plus ou moins les 3-4 parties, les idées que tu as envie de faire passer. En fait, sur un livre, c'est impossible, quoi. C'est impossible d'avoir tout ton plan en tête. Comment est-ce que tu vas passer d'une idée à l'autre, etc. Donc en fait, tu passes beaucoup, beaucoup de temps à construire tes chapitres, à construire la colonne vertébrale, mais c'est une colonne vertébrale plus, quoi. T'as presque les muscles et déjà tous les vaisseaux sanguins, etc. Parce que bah tu vois, j'avais pour chaque chapitre, j'avais la thèse de chacun des chapitres qui devait appuyer la thèse globale du livre. J'avais toutes les idées, l'idée principale, les idées secondaires, tous les exemples que je voulais mettre, à la fois des exemples inspirés de l'écosystème entrepreneurial slash startup, mais aussi des exemples concrets d'autres indépendants. Donc en fait, tout ça, tu vois, j'avais presque préécrit le livre en amont sans en faire des phrases, etc. Mais j'avais déjà toutes les idées avant de me mettre à écrire. Okay. Et cette partie-là, en fait, elle m'a pris quasiment 4 mois, tu vois, 4 mois de réflexion. Bien sûr, t'es pas à temps plein dessus, mais 4 mois où tu te replonges dans des lectures que tu avais déjà eues, dans toutes tes notes que tu as prises depuis des années. Et ça, c'est un truc que j'avais complètement, tu vois, sous-estimé. Moi qui pensais que j'allais écrire ce livre-là en 4 mois. 4-5 mois, je m'étais dit, j'avais dit à mon éditeur, dans 15 jours, je t'envoie le chapitre 1, 2, 3, et puis après, on va suivre ce rythme-là pendant les 3 prochains mois, et puis ça sortira, ça sortira assez vite. Bon, au final, tu vois, c'est un projet qui a pris plus ou moins 8 mois, quoi.
Ouais, mais je le vois, je connais quelques créateurs de contenu et quelques auteurs autour de moi, et bon, d'ailleurs certains qu'on connaît en commun, et tu vois à quel point c'est vraiment un exercice. Il y a pas vraiment le terme, tu vois, j'ai pas envie de dire le mot usant ou éreintant, parce qu'il y a aussi le côté où il y a un côté épanouissant qui est génial, en fait, de penser toute sa coupe. Enfin, de coucher toute sa pensée sur papier, je trouve que c'est aussi un énorme travail de développement personnel et tout, mais qui te prend beaucoup beaucoup d'énergie et qui te fait des nœuds au cerveau, parce qu'effectivement t'as envie d'en rendre un truc qui est carré, tu vois, un article effectivement, comme tu l'as dit, un article ou un épisode de podcast que tu fais qui est moyen. Bon, tu le publies, tu te dis, ok, bon, il y a quand même des 2-3 idées qui sont sympas, les auditeurs ou les lecteurs vont quand même y retrouver quelque chose d'intéressant, et puis ils me le pardonneront au prochain article ou au prochain podcast. Là, t'écris un bouquin. Si tu sais qu'à la page 20, de la page 20 à la 22, c'est creux et qu'il n'y a pas d'idée, machin, tu sais que la personne, elle va fermer ton bouquin et qu'elle va perdre tout le reste. Et donc, tu as besoin que tout soit nickel, quoi. Donc, effectivement, c'est un sacré boulot. Et franchement, je te félicite parce que c'est, je sais à quel point. Alors, je ne me suis pas encore lancé, mais même si tu sais que j'aime beaucoup écrire. Et un jour, je me lancerai le défi, mais je sais à quel point c'est compliqué. Donc, franchement, bravo. Et il y a des trucs peut-être que t'as sorti de ton, comment dire, de la productivité, enfin des outils de productivité que t'avais appris via le podcast ou via l'écriture d'articles que t'as réutilisé dans l'écriture du livre. Tu vois, dans le podcast, j'imagine que t'es très bien organisé, très méthodique. Est-ce qu'il y a des choses assez concrètes peut-être que t'as repris et que t'as transposé à l'écriture d'un livre?
Bah déjà, ouais, sur le plan vraiment projet, moi, tu vois, par exemple, le podcast, je l'ai beaucoup, enfin, tu regardes le process du podcast aujourd'hui, c'est des micro-tâches qui sont en fait assemblées, qui forment des plus grosses tâches et qui ensuite forment en fait un projet, et un projet gagne un épisode. Donc en fait, tu vois, t'as souvent des gros blocs, moi j'ai la préparation qui inclut tout ce qui est invité, chercher les invités, trouver des idées de sujets, préparer les interviews, la partie prod, qui est vraiment la production de l'épisode, l'enregistrement, les consignes au monteur, etc. Et puis ensuite la partie vraiment promotion. Et donc tu vois, j'ai repris aussi un peu ça. Par exemple, tu vois, sur le livre, t'as plein de manières de faire, et chaque auteur a presque sa propre méthode. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fonctionné un peu en batch, et de me dire, bah, quand je suis sur la partie écriture, je ne fais que de l'écriture. Donc par exemple, sur vraiment la partie écriture pure, c'est-à-dire ouvrir mon ordinateur, ouvrir des Google Docs et tu vois, à chaque nouvel Google Doc, un nouveau chapitre, etc. Donc vraiment la partie écriture pure qui a dû me prendre, je pense, 2-3 mois. Encore une fois, pas à temps plein, mais 2-3 mois. Et ben en fait, j'ai pas relu une seule fois mon texte sur cette période-là. Parce que je voulais que mon cerveau, tu vois, soit conditionné au fait de ne faire qu'écrire, que en fait, en gros, tous les matins, la seule tâche que j'avais à faire, c'était d'écrire les quelques pages que je devais écrire aujourd'hui, et de pas, tu vois, casser ça en disant, bah tiens, ok, aujourd'hui je vais faire un peu de relecture, et donc tu repasses sur des choses, et en fait tu recorriges, et donc tu repères le rythme d'écriture. Et tu vois, j'ai un peu ça aussi sur le podcast. Aujourd'hui, je fonctionne de plus en plus en batch, c'est-à-dire que je vais me prendre un temps où je vais préparer plusieurs épisodes, ensuite je vais enregistrer tous ces épisodes-là, et ensuite, tu vois, je vais me les réécouter, donner des consignes à un monteur, et puis ensuite monter tout ça. Donc tu vois, je fonctionne de plus en plus en batch pour justement, je ne sais pas si d'ailleurs je gagne du temps ou pas, mais En tout cas, tu vois, je suis concentré sur un seul type de tâche à la fois. Et je pense que je me sens, en tout cas moi, en tant que personne, je me sens plus productive parce que je suis conditionné là-dessus. Je sais exactement ce que je dois faire et je répète un peu le même process à chaque fois. Tu vois. Sur chaque chapitre d'écriture, en fait, tu refais la même chose. Tu repenses à ta thèse, à tes idées et en fait, tu écris au fur et à mesure tous les chapitres. Donc ça, c'est un truc que j'ai pris. Et après, tu as l'autre aspect qu'on voit un peu moins et que les lecteurs, lectrices ne verront pas, mais tu as toute la partie construction du livre et c'est surtout une construction collective. Tu vois, le podcast, je demande aussi beaucoup l'avis des personnes sur les épisodes, leur demander ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient voir. Tu vois, je demande beaucoup de feedback sur les newsletters, etc. Et bah, tu vois, le livre, c'est aussi un projet où j'ai créé une micro-communauté dans la communauté Tribu 1D d'une trentaine de personnes qui m'ont accompagné pendant toute l'aventure de ce livre-là. Donc, on réfléchit à la thèse, au plan, etc., en passant par l'écriture. Et donc, à chaque fois que tu vois que j'écrivais un chapitre, je leur dis, voilà, j'écris tel chapitre sur le positionnement. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est quoi les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas ailleurs? C'est quoi vos points de difficulté aujourd'hui sur le sujet du positionnement, etc. Et tu vois, en fait, ça, c'est un truc que j'ai pris du podcast où je me suis dit, en fait, les meilleurs contenus de podcast, les meilleurs sujets que j'ai, c'est les sujets qui vont à la fois m'intéresser mais qui vont aussi intéresser une audience. Pourquoi est-ce que je répéterais pas ça sur le livre? En fait, le livre, je le fais pour moi, c'est aussi un kiff perso, mais sur un projet où tu passes autant d'heures sur un temps restreint, tu le fais aussi pour que ce livre-là, il soit lu, qu'il soit acheté, qu'il soit recommandé. Parce que, tu vois, sur le livre, on n'en a pas trop parlé, mais en gros, il n'y a pas de bouquin sur le freelancing aujourd'hui. Au-delà des livres, le freelancing pour les nuls, le guide de l'auto-entrepreneur, etc., il n'y a pas de vrai livre vraiment qui te parle des aspects business. Il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. Donc, en fait, l'objectif et l'ambition, c'est d'en faire une référence dans les prochaines années. Et pour si je veux en faire une référence, il faut que je sois sûr du contenu. Et pour être sûr du contenu, les meilleurs jus, c'est d'autres indépendants qui sont en fait qui se posent ces questions-là et qui sont dans la cible du livre. Donc ça, tu vois, c'est un truc que j'ai appris du podcast et que j'ai essayé de répliquer. Pareil, ça, je l'ai jamais vu en France, mais d'impliquer des gens dans l'écriture du livre au fur et à mesure. Tu vois, pas in fine à la fin où tu parles un peu du process, mais vraiment pendant que tu es en train de réfléchir. Tu as cette communauté-là. Et ça, c'est un truc, tu vois, tous les codes, la manière dont je communiquais, dont je partageais l'info, en fait, je réplique pas mal de choses et de process que moi, j'avais moi-même sur le podcast avec les auditeurs et puis la communauté.
Ok. Bah écoute, merci pour tout ce partage parce que déjà moi, on parle de plaisir égoïste un peu depuis tout à l'heure, mais là c'est moi ça m'apporte beaucoup parce que je réfléchis beaucoup à ça aussi pour Extraterrien. J'ai une communauté ultra engagée, j'ai une chance inouïe avec des auditeurs qui me font beaucoup 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 de feedback, beaucoup d'intros, beaucoup de recommandations et tout. Et effectivement, je pensais effectivement sur d'autres contenus. Comment les solliciter et ce que tu fais, enfin ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Effectivement, sur un livre, c'est hyper ultra pertinent en fait de les impliquer, de leur demander ce dont ils ont envie. Et en plus, pour le plus tard, un peu sur le côté un peu marketing et marque, ça, c'est des vrais ambassadeurs quoi. C'est des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai co-écrit le livre, presque, tu vois. Et je dis pas ça en étant péjoratif, hein, je dis ça même sur le côté cool, tu vois. C'est vraiment bien d'avoir transformé ça comme une aventure collective quoi.
Mais tu sais, quand tu fais, c'est un peu le concept de flywheel en anglais. Alors, j'ai pas la traduction en français, mais en gros, c'est ce côté où plus tu vas créer des choses, plus surtout tu vas créer un lien avec ta communauté, tu vas les embarquer avec toi d'une manière ou d'une autre, tu vas leur demander leur avis, tu vas les rendre un peu plus acteurs de ton propre projet, plus en fait, ça va être simple aussi de créer des contenus qui vont parler à des gens en fait. T'es plus tout seul dans ton coin à faire des paris, tu vois, un peu au doigt mouillé en disant ok, je vais essayer de sortir ça, je sais pas si ça va prendre ou pas. Là, si tu veux, tu te bacs et en fait t'es presque sûr que en tout cas le contenu va plaire. Et c'est par exemple ce qui s'est passé sur le livre, tu vois, avant de l'envoyer à l'éditeur, donc avant d'envoyer mon manuscrit, il y avait 4 versions du livre qui avaient été draftées, qui avaient été améliorées. J'avais écrit peut-être 3 fois les 3 premiers chapitres. Donc en fait, quand je l'ai envoyé à l'éditeur, j'étais sûr que le contenu était bon. Et la preuve, c'est que sur le fond, il y a eu très très peu de corrections ensuite avec Erol, plutôt des mises en page, des formes, des cohérences entre les différentes parties. Mais si tu veux, tu vois, aujourd'hui, le livre n'est pas encore sorti, donc on verra ce que ça donne, mais sur le fond, Je suis sûr à 100% de la qualité du bouquin sur le fond parce que il y a plus de 25 freelances qui ont relu le livre d'une manière ou d'une autre. Il y a différents, en plus des freelances qui ont différents niveaux de maturité. Donc je sais que le fond est là. Après, bien sûr, ça ne suffit pas à créer un livre référence et à vendre des bouquins. Mais si tu veux, déjà sur cette partie-là,
c'est
le fait de ne pas être tout seul dans mon coin, j'ai plus l'appréhension de certains auteurs qui, tu vois, bossent pendant 6 mois sur un livre, le sortent. Et ils sont là en train d'attendre un peu les retours des lecteurs et t'es un peu dans le brouillard. Là, en fait, je sais que sur le fond, c'est OK. Maintenant, il faut bosser sur la forme, sur le marketing, etc. Mais sur le fond, je suis confiant, quoi. Et ça, c'est cool. Quand t'as une communauté, un podcast, c'est plus tu vas essayer de... Et c'est pas simple, en fait, au début. Mais plus tu vas essayer de créer des conversations avec un petit groupe de personnes qui vont pouvoir t'accompagner, qui vont pouvoir te faire des retours, et des retours hyper pertinents, des choses à améliorer, etc. Plus, en fait, tu vas améliorer ton projet... et en fait c'est une flywheel quoi. Plus ton projet va être meilleur, donc tu vas agréger d'autres personnes qui vont vouloir c'est exactement ça.
Mais écoute, ouais, je connaissais pas ce concept de la flywheel, mais moi ça me parle beaucoup. Effectivement, plus ta communauté elle grandit, plus t'as du feedback et plus tu sais exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils cherchent, et plus c'est facile en fait de créer du contenu. Donc très très bon concept. Je ferai mes petites recherches dessus. Le temps avance pas mal. On est assez bavard et il y avait quelques sujets avant de dépasser l'heure fatidique. Je crois que Raphaël y tient. Moi, il y en a un. Tu as dit effectivement que ça t'avait pris plus de 350 heures de boulot. Tu as dit aussi que tu avais délégué quelques parties sur ton podcast. Est-ce que du coup tu t'es entouré de gens directement sur ton podcast? Ça peut être des prestats ou peut-être même des mentors. Est-ce que tu t'es entouré et tu parlais un petit peu du travail par bloc. Du coup, est-ce qu'il y a des blocs entiers que t'as délégué?
Ouais, c'est vrai que de temps en temps là, dans notre échange, je parlais souvent de on. Et je trouve que le nom Tribu Indé, moi l'objectif, tu vois, la vision à 2 ans, c'est d'avoir une petite équipe avec qui je travaille sur Tribu Indé. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, ça s'appelle Tribu Indé et c'est pas le podcast d'Alexis Minkela. C'est pour que chacun puisse aussi se réapproprier à son échelle ce projet-là et puisse s'y investir. Donc par exemple sur la partie montage, ça j'ai délégué ça depuis maintenant un an. Tu vois, j'ai commencé en janvier 2020. Donc toute la partie montage, elle est déléguée. Selon les épisodes, je donne quelques consignes, mais du coup, tu vois, ça me prenait pas nécessairement beaucoup de temps, mais c'était juste une charge mentale. En fait, c'est le truc, si tu veux, quand t'as fait ça pendant un an, t'as compris comment ça marchait. Je pense que j'étais pas le meilleur non plus, tu vois, sur le son, etc. Donc là, au moins, je délègue ça. C'est plutôt cool de plus avoir cette partie-là à ma charge. Et là, depuis quelques mois, je travaille avec une freelance qui s'appelle Victoria et avec elle, on bosse pas mal sur la partie promotion. Et elle est focalisée plutôt sur la partie promotion marketing du podcast et de chaque épisode. Okay. Et donc, en gros, ensemble, on co-crée des contenus à la fois sur le site, mais aussi en termes de promotion, que ce soit notamment sur LinkedIn, où je suis un peu plus actif depuis quelques mois. C'est aussi en partie grâce à elle. Et l'idée, c'est de continuer comme ça. Et en fait, l'argent que je peux générer avec le podcast, pouvoir le réinvestir directement dans Tribu Indé pour pouvoir bosser avec d'autres personnes, faire grandir le projet. Parce que j'ai encore une fois la chance d'avoir la partie freelance qui me permet de subvenir largement à mes besoins. Donc aujourd'hui, t'as un monteur, Gilles, et puis t'as Victoria sur la partie, market promotion. Je pense que ça va continuer comme ça. Je suis pas sûr d'augmenter encore l'équipe sur 2021. J'ai Alex aussi, Tourgis, qui travaille sur le site internet, le nouveau site de Tribu Indé qui a fait peau neuve pour la fin de l'année et puis la sortie du livre.
Ouais, j'ai vu,
donc,
ouais.
Après, c'est plus ponctuel, mais si tu veux, vraiment de manière hebdo, c'est vraiment Victoria et Gilles qui m'accompagnent sur Tribu Indé aujourd'hui. Ouais.
Ok, d'accord. Et Victoria, ça m'intéresse parce que du coup, tu l'as fait travailler sur les contenus Instagram et peut-être elle te file un coup de main sur ta newsletter ou peut-être sur de la presse. Comment est-ce qu'elle t'aide du coup sur la partie promotion?
Alors, de manière très concrète, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est que sur chaque épisode de podcast, Elle crée notamment la page de description du podcast qu'on voit sur le site.
Okay.
Avec tout ce qui est timecode. En fait, c'est des choses qui prennent quand même du temps, mais tu vois, créer les timecodes, créer les passages un peu intéressants. Après, elle me partage pas mal d'idées, en gros, des idées marketing pour chaque épisode. Donc, est-ce qu'on peut en faire des contenus capsules? Est-ce qu'il y a suffisamment de matière pour faire un carrousel avec tel et tel épisode? Est-ce que là, en fait, on pourrait faire des sondages en story pour tel et tel sujet? Donc là, c'est plutôt, tu vois, toutes les idées marketing qu'on peut avoir et que moi, je rajoute. Et ensuite, elles ne mettent pas sur la newsletter. Sur la partie Instagram, elles ne mettent que sur la partie capsule audio. Donc en gros, les extraits du podcast. Le reste, c'est du contenu que moi, je crée encore tout seul. Et pareil pour la newsletter, c'est un contenu que je délègue pas parce que c'est un peu mon petit plaisir de la semaine d'écrire ça. Donc c'est vraiment sur la partie vraiment promo, à la fois sur les pages, sur quelques contenus Insta et puis sur les posts LinkedIn. L'idée, c'est que on co-construit la thèse ensemble, ou que moi j'ai des idées, tu vois, sur tel épisode, où en fait je lui dis bah tu vois, par rapport à cet épisode là je pense que ça serait bien de prendre tel et tel angle. Et derrière, en fait, après, tu vois, c'est une sorte d'aller-retour où on co-construit chacun des posts, des publications pour promouvoir le podcast.
Ok, trop cool. Bon, on pourra reparler en privé. Moi, j'ai choisi un axe de construction d'équipe totalement différent du tien. Je me suis dit, moi, aujourd'hui, le podcast tel qu'il est, il plaît. Du coup, j'ai optimisé le temps et je me suis dit, là où je pêche, c'est l'outbound commercial. Et du coup, c'est là-dessus que je me suis focalisé et que j'ai délégué en fait la partie commerciale, et je regrette pas du tout. Et je garde le montage, tu vois. Et il y a des gens que ça surprend, tu vois, pour quelqu'un qui a de l'audience, de se dire putain, tu gardes le montage après 70 épisodes. Je dis ouais, bah en fait, la vérité, c'est que je fais pas de montage, c'est que j'ai tout processé pour faire zéro montage, et du coup, ça j'ai délégué autrement, mais on en reparlera, c'est pas le sujet du jour. Ouais, je voulais. Il y avait une dernière question avant, peut-être des petites questions un peu plus, on va dire, entre podcasteurs, mais une dernière question, c'était plus sur côté business et personal branding. C'était pour savoir, toi, ton podcast, ça a été vraiment un franc succès, tu vois, sur j'aime pas dire le mot niche, mais en tout cas sur ton domaine qui est le freelancing. Bah vous êtes, t'es pour moi, t'es la référence, en tout cas. Moi, je te vois de l'extérieur, je connais un peu les autres podcasts dans le domaine et tout, et t'es celui que j'ai le plus écouté et que tu vois que je prends le plus de plaisir à et sur celui sur lequel surtout j'apprends le plus. Moi, j'aimerais savoir, vu que t'es freelance à côté, et que c'est quand même une belle vitrine, le podcast, à part le livre, est-ce qu'il y a d'autres portes que ça t'a ouvert, tu vois, d'un point de vue business? Est-ce que la valeur perçue par tes clients a augmenté? Est-ce que je sais pas, t'as utilisé à fond ton podcast pour pour en faire une vitrine? J'aimerais savoir un petit peu toutes les portes, on va dire les side effects, les effets de bord qu'ont eu le podcast sur ta carrière de freelanceur et de content stratégiste, on peut dire ça, en freelance.
C'est intéressant comme question parce que en fait, la plupart des marketeurs vont te dire, mais Alexis, tu fais les choses à l'envers. C'est-à-dire que généralement, on te dit, il faut que tu crées du contenu qui parle à ta cible, qui s'adresse à ta cible, etc. Sauf que moi, le problème, c'est que du coup, tu vois, j'ai ma cible freelance qui est une cible B2B / startup et ma cible tribu indé qui sont d'autres freelances. Donc en fait, tu vois, à première vue, tu te dis, il n'y a aucune cohérence dans ce que je suis en train de faire, et pourtant, je suis un marketeur, donc c'est quoi le truc derrière. Il se trouve que moi, ça me convenait bien, et c'est aussi stratégique d'avoir ces deux axes, ces deux projets aussi, qui en fait sont co-comitants et s'alimentent entre eux, mais effectivement, ça adresse deux cibles différentes. En fait, avec Tribu 1D, ce qui est intéressant, c'est que j'adresse une cible que moi j'appelle mes alliés, qui sont en fait d'autres indépendants, d'autres freelances. Et c'est aujourd'hui, tu vois, je te dirais 50% des missions que je récupère chaque année, enfin chaque mois depuis 2 ans, 50% des missions, c'est souvent du referral d'auditeurs du podcast qui me disent, bah tiens, je travaille sur cette mission-là, ou je peux pas prendre cette mission-là, je sais que tu fais ça, j'écoute le podcast, je suis sûr que ça va matcher. Et donc, en fait, j'ai des mises en relation comme ça, et c'est comme ça que j'ai signé un grand nombre de missions là-dessus. Donc, en fait, tu vois, j'adresse pas ma cible directement.
C'est fort, tu formes des podcasteurs, ils vont avoir trop de business, et du coup, comme ils ont trop de business, ils t'appellent toi. Ça, c'est pas mal.
Donc, tu vois, c'est le paid forward, tu vois, je leur ai apporté du contenu, et donc un jour ou l'autre en fait ils se souviendront de moi, et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai souvent des propositions de mission. Donc ça, c'est quand même le premier side effect, de dire ok, c'est pas ma cible principale et pourtant j'arrive à dégager du business. Ensuite, le deuxième side effect, c'est qu'effectivement, en 2020, j'ai eu des opportunités, et notamment une opportunité de créer, qui s'est soldée par une mission, mais de créer un podcast, de coproduire un podcast avec une boîte qui s'appelle Neftis, qui est une fintech qui est assez discrète et pourtant qui a permis de financer quasiment un demi-milliard d'euros en recherche et développement pour des boîtes et des PME françaises, ce qui est assez dingue. Et donc, tu vois, pour eux, j'ai créé toute une saison de podcast et on est en train de signer une saison 2 de podcast qui s'appelle, le podcast s'appelle Expédition Tech. Et donc ça, tu vois, en fait, c'est un side effect qui est excellent parce que y a la crédibilité du podcast. Les gens peuvent aussi voir en fait qu'est-ce que je peux produire en termes de contenu, l'angle que je prends, la tonalité que je peux avoir, etc. Et donc ça, tu vois, c'est un projet que j'ai géré de A à Z, à la fois la stratégie, la partie production. Donc ça, c'est vraiment cool, side effect. Et en fait, c'est une mission freelance qui est aussi hyper intéressante. Et puis ensuite, effectivement, t'as ce sujet de jauge de crédibilité. C'est-à-dire que même sur des missions pour lesquelles je produis pas de podcast pour des clients, quand tu fais une rapide recherche sur ce que je fais, tu tombes tout de suite sur Tribu 1D. Et en fait, tu vois, le projet, il y a 55 épisodes, tu as 2 ans d'activité, tu as des milliers de freelances qui écoutent le podcast. Forcément, ça joue sur la perception qu'ont tes clients. Parce que j'en parle longuement dans le livre, mais tu as plusieurs piliers, tu as 4 grands piliers pour devenir ce que moi j'appelle un freelance incontournable. Et un des piliers, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter ta crédibilité, parce qu'en fait ton client, quand il vient te voir sur n'importe quel sujet, en fait il va te jauger de manière inconsciente. Il va se poser tout un tas de questions, ça peut aller très très vite, mais en gros il va se poser tout un tas de questions sur ta crédibilité à l'accompagner, parce que lui en fait prend un risque, tu vois, à travailler avec toi. T'es pas sur un produit, t'es sur un service, et ta propre personne, c'est toi qui apportes ta propre solution. Et donc le fait d'avoir un podcast qui est écouté par des milliers de personnes, etc., rajoute une crédibilité à la qualité de ce que je peux produire en termes de contenu, en termes de marketing, etc. Donc ouais, effectivement, c'est une très très bonne carte de visite. Et d'ailleurs, la plupart des clients qui me contactent aujourd'hui me contactent et me parlent souvent de Tribu 1D, tu vois, dans les premiers échanges, quoi. Side effect dingue. Et puis je pense que le plus gros side effect aujourd'hui, même si ça me rapporte pas d'argent encore une fois aujourd'hui, enfin en tout cas très peu, c'est avoir écrit un livre. Je pense que ça va me donner aussi de nouvelles opportunités, à la fois pour les freelances, mais aussi côté client. En fait, ça peut m'ouvrir sur d'autres sujets, tu vois, sur la partie conférence, sur les sujets de futur du travail, etc., que j'ai pas forcément abordé, sur lesquels je me suis pas encore positionné. Mais potentiellement, tu vois, ça peut être des axes de développement sur 2021-2022. Encore une fois, il y a un boulevard, il y a pas d'auteur sur le freelancing aujourd'hui, quoi.
Ouais, il y en a assez peu, finalement. Alors que autant sur la partie, on va dire, travail et très business, on parle beaucoup aux entreprises. Tu vois, il y a des plateformes, tu vois, qui proposent aux entreprises de faire travailler des freelanceurs, d'en trouver d'autres plateformes qui proposent aux freelanceurs de mettre en avant leur boulot. Mais effectivement, il n'y a pas de formation ou même d'influenceurs. Tu crées un peu ce mot-là, tu vois, sur ce domaine-là. Donc c'est hyper intéressant. Effectivement, tu défriches pas mal, et c'est en ça que je trouve ton parcours hyper inspirant. Donc écoute, trop cool. Félicitations. J'avais 2-3 petites questions. On passe l'heure. C'était des questions un peu à podcast curious. C'était juste pour savoir, on verra si on les coupe au montage, mais la toute première, c'était de savoir, c'était qui l'invité qui t'avait fait le plus rire.
Écoute, je te dirais, moi j'ai passé un très très bon moment avec Alex Viseo, parce que je me suis toujours demandé s'il était, donc Alex Viseo, c'est un influenceur voyage, enfin c'était un ancien, c'était un influenceur voyage qui aujourd'hui est plutôt sur des sujets de personal branding et qui est passé plutôt du côté vraiment entrepreneur, où il est en train de monter un business, plus que sur la partie influenceur. Et c'est un gars qui est assez barré, qui est assez fou dans ses vidéos, qui est hyper dynamique, qui lâche 2-3 punchlines à chaque fois. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie, et même en off à côté? Et en fait, c'est un gars qui est hyper naturel. Je me suis vraiment marré dans l'épisode. On s'envoie quelques petites vannes, quelques petites punchlines. Je m'étais bien marré à faire cet épisode-là avec Alex.
Ok, bon, moi je suis pas étonné. Généralement, les gens qui ont effectivement cette petite gouache quand ça marche, c'est que c'est très sincère, donc c'est pas étonnant. Est-ce que tu as un épisode un peu catastrophe, ou est-ce que tu as une petite boulette podcastique à raconter? On en a tous fait beaucoup.
Écoute, tu vois, par exemple, je touche du bois, mais je n'ai jamais. Tu vois, par exemple, j'ai jamais perdu d'enregistrement ou oublié d'appuyer sur le bouton. En revanche, un truc un peu cata, c'était un épisode que j'ai fait en extérieur sur une terrasse à Paris. Donc, il faut imaginer camion de pompiers, policiers, sortie d'école. Enfin, j'ai eu la totale. Ça a été une galère à monter. On était à moitié avec les tables bancales, les deux micros et tout. Bref, c'était la pire expérience d'avoir fait ça en extérieur. En plus, j'étais hyper stressé. Donc, tu vois, ça, c'était un bon épisode, mais c'est pas. Enfin, je me dis qu'on aurait pu faire mieux là-dessus, quoi.
Ouais. Ouais, mais en plus, ça joue vachement, je trouve, le cadre de la conversation, ça influence énormément. Et tu vois, tu perds le fil, tu perds plein de choses. Et surtout, si toi, l'intervieweur, t'es pas dedans alors que c'est à toi de mener le truc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je comprends ça. Est-ce que y a un épisode que tu as trouvé un peu sous-côté ? Alors, sous-côté, par là, j'entends, le terme est sûrement mal choisi, mais j'entends par là qu'il a été très peu écouté comparé à toi, ce que tu penses être la réussite de l'épisode et la qualité du contenu que tu as produit.
Oh, c'est pas évident.
Moi, j'aime bien recommander des épisodes comme ça, en fait.
Tu vois, encore une fois, je regarde pas trop les stats, donc je suis incapable de dire, je suis même incapable de dire l'épisode qui a le plus marché. Alors du coup, je sais pas si c'est un épisode sous-côté, mais un épisode que je recommande régulièrement, et je le recommande d'autant plus parce que c'est des anciens épisodes. C'est pas la deuxième partie à partir de l'épisode 20. C'est l'épisode, je crois que c'est l'épisode 13 avec Louis Grenier, un gars qui a bossé chez Ojark, une boîte maltaise de marketing. Et en fait, c'était à l'époque où je me posais pas mal de questions sur le positionnement. Comment est-ce que tu fais pour tu vois, sortir du lot, pour trouver ta voix, pour tu vois, comment est-ce que tu est-ce qu'il faut forcément que tu sois très clivant dans ton discours, dans ton approche, etc. Et lui m'avait partagé. C'est quelqu'un qui a aussi un autre podcast qui s'appelle Everyone Hates Marketer, donc en anglais, et qui si tu veux, c'est, y a pas de blabla, de bullshit et tout. Et cet épisode là pour moi a été un des épisodes un peu marquant dans l'aventure de Tribu Indé et dans mon aventure freelance. Donc je le recommande souvent, tout en plus qu'on a enregistré ça dans une chambre d'hôtel, là encore un lieu auquel tu penses pas pour enregistrer des épisodes de podcast, mais du coup, ouais, celui avec Louis Grenier, ça va être l'épisode 13, je pense.
Bah écoute, ouais, je le recommande aussi.
Tu l'as écouté?
Je l'avais écouté et j'avais vraiment trouvé, ouais, j'avais trouvé le mec hyper hyper intéressant. Et il avait déjà, son podcast est vraiment cool. Je trouve qu'il a vraiment pris une super ligne édito, un contre-pied hyper intéressant. Il arrive à choper des invités de ouf. Et j'aime bien sa vision de se dire j'ai envie de lancer un podcast et jusqu'à temps que, en fait, mon audience soit tellement grosse que je pourrais le lancer n'importe quoi et ça marchera. Donc j'avais bien aimé lui, et ce qu'il disait, c'était, ça changeait, ouais, quoi. Il y avait un discours qui était assez, assez frais et je comprends que ça t'ait beaucoup inspiré. Trop cool. Ma toute dernière question, c'est de savoir quel est l'invité avec qui tu échanges le plus encore aujourd'hui.
Ouais, sans hésitation, je te dirais. Je te dirais Rémi Rivas, avec qui j'ai monté d'autres projets, avec qui on discute pas mal, que j'ai réinvité sur le podcast. Ouais, je te dirais que c'est l'invité à lui, et puis Valentin Decker, mais qui est un ami avant même de créer Tribu Indé. Donc je dirais que ça compte pas vraiment, avec qui j'ai un autre podcast qui s'appelle Touk Touk. Mais ouais, je te dirais Rémi Rivas et Valentin Decker, c'est les deux avec qui j'échange quasiment quotidiennement encore aujourd'hui, quoi, après 2 ans, t'imagines.
Ok, trop cool. Et ben écoute, pour clôturer ce super épisode, moi j'ai passé un super moment et j'espère que toi aussi, que les auditeurs, pardon, également. Est-ce que tu peux rappeler le titre de ton livre, où est-ce qu'on pourra le trouver, le nom de ton site internet, le nom de ton podcast? C'est le moment promo où il faut balancer toutes les infos. À toi.
Bah déjà, merci pour cette discussion, c'était vraiment trop cool. Et donc, bah, toutes les infos sont à retrouver sur tribuindé.com, tout attaché. Il y aura le podcast, la newsletter, quelques articles que j'ai écrits sur 2020. Et puis, il y aura aussi toutes les infos sur le livre. Et le livre est dispo normalement quand l'épisode sera sorti dans toutes les bonnes librairies, la Fnac, Cultura, Appui Amazon. Et le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Et il est publié aux éditions Erol.
Voilà, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Alexis, à une prochaine.
Merci beaucoup, salut Bart.